Dans la vieille rue, troisième partie, chapitre 5. Le lendemain et le surlendemain, Georges revint à la charge. Avait-elle prévenu son père? Quand pourrait-il lui parler? Le temps pressait. Le mariage devait avoir lieu avant l'expiration de son congé, et celui-ci approchait. Geneviève répondait toujours « Attendez encore ». Ses réticences finirent par exaspérer le capitaine de Briard. Le troisième jour, après avoir insisté inutilement, il finit par dire avec une intention ironique qui blessa la jeune fille « Il paraît qu'à vos yeux je ne suis pas un parti sortable ». Cette accusation injuste, ce sarcasme cruel, lui donnèrent le courage de s'expliquer. Comment ne comprenait-il pas que dans un moment pareil, elle ne pouvait demander à son père de se séparer de Maximin. Ce serait barbare. Plus tard, peut-être, on parviendrait à l'habituer à cette idée. Mais il fallait avoir de la patience, ne rien brusquer. Georges l'écoutait, abasourdi, consterné. Quoi ? Elle avait pu supposer qu'il se chargerait de l'enfant ? Sa stupéfaction était si profonde qu'il ne parvint pas à la dissimuler. Sincèrement, presque brutalement, il lui donna à entendre que jamais il n'avait songé à emmener Maximin. Elle eut un soubresaut, comme quelqu'un qu'on aurait subitement frappé. C'était de bonne heure, dans l'après-midi, les volets fermés rendaient la chambre obscure. Georges ne vit pas la pâleur de Geneviève. Lorsque, vaguement effrayé de son silence, il se pencha pour la regarder de plus près, elle détourna la tête. Elle avait la pudeur de sa douleur. Elle comprenait l'intense désappointement que son visage devait révéler. « Geneviève, parlez-moi !» dit le jeune homme. Il souffrait de l'avoir affligée, et pourtant ne regrettait pas sa franchise. Sa conscience était à l'aise, il n'avait dit que ce que tout autre homme aurait dit à sa place. Quand on se marie, on épouse une femme pour soi, on n'adopte pas sa famille. Il fallait l'ignorance de Geneviève pour ne pas le sentir. « Parlez-moi, » dit-il encore, cherchant sa main. Elle la lui laissa prendre. « Que dois-je vous dire ? » demanda-t-elle. Cette main froide, inerte, cette voix sans vibration, remuèrent Georges. « Voyons, chérie, » murmura-t-il tendrement. « Soyez raisonnable. C'est le sort de toutes les femmes de suivre leur mari et de quitter leur famille. » Et longuement, doucement, raisonnablement, il lui expliqua les exigences de la vie, lui dit qu'on ne pouvait tout concilier, qu'une adoption de ce genre ne se faisait jamais, que dans sa carrière elle devenait inadmissible. Il n'était pas cruel, seulement il connaissait les difficultés de l'existence d'un soldat. Certes, elle reverrait Maximin. Il pensait à part lui que ce serait le plus rarement possible. Mais la place de l'enfant était avec son père, celle de Geneviève, près de son mari. « Lorsque vous serez ma femme, » dit-il tout bas à son oreille d'un accent caressant, « vous comprendrez vous-même qu'il ne peut y avoir personne entre nous. » Et il l'attirait dans ses bras. Elle s'abandonna à cette étreinte, sans un sourire, sans une parole. « Voyons, n'est-ce pas que j'ai raison ? Vous appréciez maintenant la situation telle qu'elle est. Je ne puis me charger d'un enfant malade. Vous vous en rendez compte ?»« Oui, » répliqua-t-elle doucement. Et c'était vrai. Il l'avait persuadée que c'était impossible. Ses explications avaient été si concises qu'aucune espérance ne lui restait. En eût-elle conservé, d'ailleurs, qu'elle ne se serait pas abaissée à la prière. Elle avait pour Maximin des susceptibilités qui lui manquaient pour elle-même. Avec l'absence de perspicacité des hommes, Georges ne sut pas mesurer la violence du coup qu'il avait donné. Il voyait bien que Geneviève souffrait et il trouvait la chose naturelle. Mais, pensait-il, cette impression se dissipera. Demain, elle sera revenue à la raison. Il vaut mieux la laisser à elle-même que de provoquer par mes questions une crise de larmes. Quoique amoureux, il avait cette horreur des scènes attendrissantes qui est particulière à son sexe. Il murmura donc à la hâte quelques paroles caressantes et quitta la jeune fille, après lui avoir demandé à quelle heure il la verrait le lendemain. « Ne pourriez-vous pas venir promener avec moi ? Un peu de mouvement vous ferait du bien. À ce moment-ci, par exemple, votre frère dort, vous êtes libre. Dites oui, Geneviève, ce serait si bon d'être dehors ensemble, dans l'air chaud et parfumé. » « Oui, ce serait bon, » répéta-t-elle après lui d'un accent étrange. Elle le regardait avec de grands yeux fixes, dont il ne savait pas comprendre l'expression, puis continua. « Demain, à cette heure-ci, attendez-moi dans le ravin, au pied de la colline. » « Le jardin vaudrait mieux, il nous rappellerait tant de choses. »« Non, non, pas le jardin, » répondit-elle avec un frisson qui ressemblait à de la terreur. « Pas le jardin. » Lorsque Georges fut parti, elle ne s'abandonna à aucune manifestation extérieure de chagrin. Machinalement, avec des sécheresses d'automates, elle vaqua aux soins du ménage. Puis, quand Maximin se réveilla, elle lui fit la lecture, comme d'habitude, de sa voix posée et lente. Les heures de l'après-midi passèrent, sans qu'elle cherchât à s'isoler. Vers le soir, seulement après le retour de son père, elle sortit de la maison et se dirigea vers l'église. Mais elle ne s'y arrêta pas pour prier. Traversant rapidement la sacristie, elle prit le chemin du cimetière, ouvrit la porte vers Moulu et, sans rien regarder autour d'elle, alla droit à la tombe de sa mère. Arrivée là, avec une explosion de douleur, trop longtemps contenue, elle se jeta, les bras étendus, contre le carré de pierre, murmurant d'une voix déchirante « Mère, je ne puis pas renoncer à lui. J'en mourrai, vois-tu. Aie pitié de moi, délie-moi de mes promesses. Que faire, mon Dieu, que faire? Ah, mère, je t'en prie, parle-moi. « Inspire-moi !» Mais ce fut en vain que Geneviève implora. Aucune voix ne répondit à ses supplications. Elle n'entendait toujours que celle de sa conscience, répétant la même question. « Peux-tu abandonner cet enfant infirme, malade, ce frère que tu as juré de ne jamais quitter et qui mourrait loin de toi ?» À quoi une créature véhémente, qu'elle ne connaissait pas, répliquait violemment « J'aime, je suis jeune, je veux accomplir ma destinée de femme. C'est une loi injuste, cruelle, inique que celle qui voudrait m'en empêcher. » Cette protestation passionnée de tout son être, cette révélation d'une personnalité égoïste, effrayèrent la jeune fille. Était-ce bien elle qui osait affirmer hardiment ses droits au bonheur ? Ses droits. Ignoré jusqu'ici. Qui venait de les lui révéler? Elle quitta sa posture suppliante et, se redressant de toute la hauteur de son corps superbe, interrogea avidement les horizons bleus de la mer et du ciel, demandant des yeux et des lèvres « Qui donc m'a transformée ainsi? Qui a fait de moi cette femme nouvelle que je ne reconnais pas et dont j'ai peur ?» Cette fois, la nature entière lui répondit. Les collines, les vagues, les arbres et les fleurs ne demeurèrent pas indifférents à son appel. De partout des voix s'élevèrent, disant « C'est l'amour ! Écoute-le, il est ton maître !» Ces voix réunies formaient un murmure ardent qui montait autour de Geneviève, affolant son cerveau, la jetant dans les sensations extrêmes, lui enlevant le souffle. Pour échapper à l'ivresse qui l'envahissait, elle couvrit ses oreilles de ses mains, essayant de ne plus entendre. Mais ce fut en vain. Les voix répétaient toujours « Écoute-le, c'est ton maître !» Alors elle ne lutta plus. Elle ouvrit les bras avec un geste de tendresse infinie, comme si elle avait voulu étreindre dans un embrassement passionné cette nature qui était devenue sa complice et qui venait de lui révéler une partie de ses mystères et de sa force. Elle demeura ainsi quelques instants dans une sorte d'extase, les yeux fixés au loin sur les îles blanches qu'une légère vapeur commençait à estomper. À droite, le soleil s'abaissait lentement derrière la colline qui surmonte Notre-Dame de Consolation. Ses derniers rayons frappaient encore la croix de l'ermitage. Ce point lumineux attira l'attention de Geneviève et amena chez elle une réaction subite. Que de fois Maximin lui avait dit « Quand je pourrai marcher, c'est là que nous irons ensemble !» Cette colline, cet ermitage, exerçait sur lui une fascination. Toujours elle répondait, dissimulant ses larmes, « Oui, ce sera notre première promenade. » Et son cœur se brisait en pensant que jamais il n'aurait cette joie, car à aucune époque elle n'avait pu supporter de le voir souffrir, et pour lui éviter le moindre désappointement, elle aurait fait n'importe quoi au monde. Cependant, qu'étaient ces choses, dont alors elle voulait le préserver, en comparaison de l'abandon qu'elle méditait aujourd'hui, de l'épouvantable douleur qu'elle préparait à cet être sans défense. Une vision lui montra le visage de l'enfant lorsqu'il apprendrait qu'elle l'avait quitté. Devant ce spectacle pitoyable, une compassion immense, un remords poignant étreignirent Geneviève. Elle se fit horreur à elle-même. La voix de la nature s'était tue, celle de l'âme parlait de nouveau. La jeune fille ramena ses regards sur le cimetière qui l'environnait. Ses tombes blanches, se découpant sur le ciel pâlissant, semblaient dire « Tout finit ici. Le bonheur n'est qu'un mot, l'amour qu'une chimère. Le sacrifice seul achète l'éternité. » Elle écouta longtemps cette leçon, tandis que l'Angélus sonnait aux églises voisines. Le bruit sonore des cloches, rompant le silence du soir, pénétra Geneviève d'une émotion solennelle. Elle eut l'intuition d'un au-delà dont elle devait se rendre digne. Ses mains se joignirent, elle essaya de prononcer les mots de renoncement que sa conscience demandait, mais son cœur indompté, qui criait de douleur, ne le lui permit pas. Lorsqu'elle quitta le cimetière, il faisait presque nuit. Sur la terrasse, devant la sacristie, une ombre se promenait de long en large. Elle reconnut le curé de Saint-Paul, la vieille église presque abandonnée qui s'élevait en face de leur maison. C'était un homme âgé, jouissant d'un grand renom de sagesse, même auprès des gens irréligieux, qui appréciaient la largeur et la modération de son esprit. Il venait quelquefois voir Maximin et s'intéressait au développement moral et intellectuel du petit garçon. Geneviève, de cette façon, le connaissait un peu. Jamais, cependant, elle n'avait eu recours à ses conseils. Une impulsion soudaine et irréfléchie la poussa, tout à coup, à s'approcher de lui. « Monsieur le curé, » dit-elle. Il se retourna à cette voix haletante. « Quoi, c'est vous, mon enfant ? Il fait si sombre que je ne vous reconnaissais pas. Mais vous paraissez troublé. Que désirez-vous ? » « Un mot seulement, » répondit Geneviève. « Quand on se trouve entre deux amours, auxquels faut-il renoncer ?» Le prêtre la regarda, surpris. Cette question étrange, cet accent fiévreux, ressemblait si peu à la calme jeune fille qu'il voyait d'ordinaire. Qu'était-il arrivé pour la changer ainsi ? Tout à coup, il se souvint des étrangers avec lesquels on la rencontrait quelquefois. Sans doute il s'agissait encore de l'une de ces tristes histoires dont les prêtres reçoivent le secret. « Mais, » dit-il en hésitant, « dès qu'une affection n'est pas parfaitement pure, irréprochable, il est sage d'y renoncer. Mais toutes deux sont pures, irréprochables, permises !» s'écria Geneviève, voulant défendre son amour de tout soupçon flétrissant. Toutes deux sont fortes, puissantes. À toutes deux ma vie est attachée. Et cependant je dois choisir. Il faut que d'un côté ou de l'autre je me brise le cœur. Celui qu'elle consultait eut-il l'intuition de la vérité? Comprit-il quel combat déchirait cette âme? « Il y a toujours en ce cas, répondit-il, une grande règle à suivre qui ne trompe jamais. Celle du bonheur des autres. considérez à qui vous êtes le plus nécessaire, puis décidez. » Elle eut un sanglot, une exclamation étouffée d'angoisse. Peut-être avait-elle espéré que le prêtre serait moins sévère que sa conscience. « Ma fille, » dit-il, remué de pitié par ce cri de détresse, « souvenez-vous que tout sacrifice, si amer qu'il soit, est d'essence divine et porte en lui-même sa récompense. « Où et quand ? » s'écria-t-elle avec une rancune profonde contre les croyances et les sentiments auxquels elle allait se sacrifier. « Est-ce dans cet avenir incertain, problématique, que nous n'atteindrons sans doute jamais ? Alors que m'importe ? C'est ici-bas que je souffre. C'est ici-bas que je veux être consolée. » Le vieillard n'eut pas une réprimande pour ces paroles amères qui niaient le ciel. « Ce qui nous attend au-delà de la vie, dit-il, n'est qu'une espérance. C'est d'une certitude que je vous parlais. Vous le sentirez un jour. Tout sacrifice accompli volontairement recueille dès ce monde sa récompense. » Chapitre 6. 15 jours déjà s'étaient écoulés depuis le bal. Le mois de mai finissait, la chaleur commençait à devenir intense. Aussi, presque tous les Anglais quittaient-ils la ville, et voyait-on se fermer, l'une après l'autre, les fenêtres de l'hôtel des Îles d'Or. La petite coterie parisienne s'était également dispersée. Il ne restait plus que Madame de Santenac, les Crussols et Libine. Un motif différent retenait chacun d'eux. Marguerite craignait un retour de fraîcheur. La comtesse Lise voulait surveiller Georges. Quant à Serge, il aurait été assez embarrassé d'expliquer pourquoi il ne s'en allait pas. En effet, pour le moment, il n'avait rien à gagner. Il ne pouvait même pas agir. Monsieur de Brière lui coupait la route des deux côtés, et par le renouveau d'attrait qu'il exerçait sur Madame de Crussols, et par ses fiançailles avec Geneviève. Libine ne voyait plus la jeune fille, tout dans leur situation respective lui interdisant de se présenter chez elle ou de chercher à la rencontrer. Cependant, il en était plus préoccupé que jamais. L'idée qu'elle appartiendrait à Georges lui était odieuse, et il se sentait prêt à bien des choses pour empêcher ce résultat. Pourtant, lorsqu'il entendait Madame de Santenac et de Crussols conspirer froidement, méchamment contre le bonheur de la pauvre enfant, il éprouvait pour elle une compassion profonde et oubliait qu'il avait été son dénonciateur. Le plan des deux femmes était resté le même. Ne plus contrarier Georges, mais exploiter ses préjugés, son orgueil, son exclusivisme jaloux, en insistant sans cesse sur l'impossibilité où il serait de se débarrasser d'une famille à laquelle Geneviève était si tendrement attachée. Marguerite rapportait exactement à Lizzie et à Serge le résultat de ses conversations avec son frère. « Il est bien décidé, disait-elle, à ce que la séparation soit définitive. Il m'assure qu'il ne cédera pas. » Voilà ce qui s'appelle un caractère fortement trempé, répondit un jour le Russe avec un peu d'ironie. À sa place, je l'avoue, je me sentirais incapable d'une résolution si dure, car c'est cruel de vouloir séparer cet enfant de sa sœur. Mais il a un père, répliqua Lizzie avec âpreté, et je suis sûre que celui-ci ne consentirait pas à ce qu'on emmenât son fils. Libine fit semblant de ne pas entendre et répéta. « Oui, vraiment, je serais incapable d'une telle barbarie. » Et il ne mentait pas. Il aurait séduit Geneviève sans scrupule, mais il lui aurait permis de garder son frère. Même, il se serait intéressé au sort de cet enfant. Certes, Serge n'avait pas la rectitude de principe de Monsieur de Brière. Il ne possédait pas un sens aussi délicat de l'honneur, mais il était moins sec, moins exclusif. Il pouvait, plus que lui, être capable d'une générosité spontanée, d'une bonté facile. Il comprenait mieux certaines tendresses du cœur. C'est ce dont, avant de partir, il aurait voulu persuader Geneviève, afin de poser ses jalons pour l'avenir, si son mariage avec Georges se rompait. Mais l'occasion de le faire ne se présentait pas. Cependant, comme il aurait trouvé maladroit d'assister à la rupture qu'on préparait, il ne pouvait tarder davantage à s'éloigner. Libine se résolut alors à écrire une lettre d'adieu, dans laquelle il mit tout ce que son expérience des femmes lui suggéra. Après quoi, son départ étant fixé au lendemain, il alla prendre congé de Madame de Santenac. Il trouva chez elle Madame de Crussol et Monsieur de Briard. C'était justement le soir où Geneviève avait été au cimetière. Georges semblait préoccupé et mécontent, ce qui enchanta Serge. Il s'approcha du capitaine. « Ceux qui partent, dit-il, ont de tout temps joui de certaines immunités. En faveur de ce privilège, permettez-moi de vous féliciter de votre mariage. Quoiqu'il ne soit pas officiel encore, j'espère ne pas être indiscret. « Comment donc ? Pas du tout ? » répondit froidement M. de Briard en s'inclinant. La comtesse Lise était à quelques pas d'eux. « Moi aussi, Georges, je vous félicite, » dit-elle d'une voix basse et douce. C'était la première fois depuis leur entretien du bal qu'ils abordaient ce sujet. « Je vous remercie, » répondit le jeune homme avec embarras. Libine les laissa seuls. Madame de Crussol reprit. « Tout le monde s'en va. Moi aussi, je vais partir. Je ne puis tarder davantage. Je devrais déjà être loin d'ici. » Elle parlait avec une sorte d'émotion contenue. Georges se taisait. « Savez-vous pourquoi j'ai laissé mon mari me précéder ? » lui demanda-t-elle avec une résolution subite. « Non. Eh bien, je vais vous le dire. » C'est parce que je ne pouvais supporter la pensée de me séparer de vous sans avoir fait la paix. Nous sommes de si anciens amis, Georges. Nous ne pouvons rester en froid l'un avec l'autre. Pardonnez les paroles échappées à ma colère. Il me semble, ajouta-t-elle d'une voix qui faiblissait, qu'un homme doit avoir de l'indulgence pour ce qu'une femme dit dans de certains moments. Il balbutia quelques mots inintelligibles. « Vous me pardonnez ? Nous sommes amis de nouveau. C'est tout ce que je voulais, Georges. Maintenant, vous pouvez être heureux. Personne ne le désire plus que moi. » Elle soupira, mais sans mettre la moindre provocation dans son regard. Cette tenue triste et digne toucha infiniment Georges. Il crut à la sincérité de Lizzie et admira sa générosité. Il avait en elle une amie pour la vie. « Où allez-vous » demanda-t-il doucement. « À Spa. » Elle ajouta en hésitant un peu. « J'avais espéré que vous seriez venu avec nous et finir votre congé. Cela nous aurait rappelé notre enfance, le temps où nous y allions avec nos mères. Mais dans les circonstances actuelles, au moment de toucher au bonheur, il est naturel que... Ah ! Dit-il avec un élan de brusque franchise. Je n'y touche pas encore au bonheur. Il me reste une besogne désagréable à accomplir. Et poussé par ce besoin d'expansion qui prend tous les hommes vis-à-vis des femmes auxquelles il serait prudent et généreux de ne pas révéler leurs secrets, il lui confia les atermoiements de Geneviève et sa résolution d'arriver le plus promptement possible à la solution qu'il voulait imposer. Madame de Crussol sut éteindre la flamme triomphante qui s'était allumée dans ses yeux, mais elle eut une phrase d'une habileté consommée qui ressemblait à un cri du cœur. « Oh ! » s'écria-t-elle, « comment pouvez-vous craindre qu'elle vous immole à cet enfant ? Si elle vous aime, elle n'hésitera pas une seconde !» C'était faire naître chez Georges une supposition qu'il n'avait pas énoncée. C'était lui faire comprendre que son amour à elle n'aurait reculé devant aucun sacrifice. Si rompue qu'elle fût à toutes les ruses, Lizzie rougit cependant en proférant ce mensonge. Il lui semblait blasphémer le seul culte de sa vie. Le lendemain, lorsque Georges descendit le sentier de la colline pour aller rejoindre Geneviève, ce fut l'esprit plus affermi encore dans sa résolution. Cependant, à mesure qu'il avançait, l'air transparent et chaud, les odeurs pénétrantes du printemps amollissaient son cœur. Il se préoccupait moins d'imposer sa volonté. Il pensait surtout au bonheur qui l'attendait. L'heure était brûlante, le soleil tombait d'aplomb, argentant les oliviers, étendant ses rayons sur les champs de tamaris et d'orangers, scintillant parmi les flots bleus de la mer. Georges marchait rapidement, le chapeau rabattu sur les yeux, ne regardant rien autour de lui. De temps à autre, un jardin en terrasse lui envoyait le parfum doux des chèvrefeuilles et des glycines qui couvraient ses murs. Au tournant du sentier, il se trouva soudain dans une ombre profonde et fraîche. Les pins et les chênes verts avaient remplacé les oliviers pâles et les amandiers au feuillage grêle. Bientôt, un léger bruit de cascade lui annonça qu'il approchait du ravin. Des lianes entrelacées le dérobaient à la vue. Il les écarta, et se frayant un passage à travers les ronces, arriva dans un lieu sauvage et charmant, un vrai nid de verdure. Des rochers tombait un mince filet d'eau. Sur la berge, de grosses mottes de terre moussue permettaient de s'asseoir. Debout, sur l'une d'elles, s'attachant des mains aux branches d'un acacia, Geneviève se penchait, plongeant le regard dans les profondeurs du ravin, qui, d'une pente rapide, descendait vers la plaine. Le bruit de la cascade l'avait empêchée d'entendre les pas de Georges. Avant de l'avoir aperçue, elle sentit ses bras autour d'elle et se retourna avec un léger cri. Elle, si pâle d'ordinaire, avait sur les joues deux taches roses. Ses yeux brillaient étrangement. Elle sourit en le voyant. « C'est vous ? » murmura-t-elle avec une douceur infinie. Et spontanément, elle appuya son visage contre celui du jeune homme. « C'est vous, mon fiancé. » Elle dit ce mot lentement, comme si elle voulait en savourer tout le charme. Lui, pour toute réponse, l'étreignit plus tendrement. « Je vous attendais, » poursuivit-elle. « Je voulais être la première au rendez-vous. J'étais si pressée de vous voir. » Et elle renversait sa tête en arrière pour mieux le contempler. « Il me semblait que l'heure ne viendrait jamais. Depuis ce matin, je compte les minutes. » Georges la regardait, touché, flatté, peut-être aussi un peu surpris de cette exubérance de paroles, si inaccoutumée de sa part. « Eh bien, lui dit-il, je vois que vous m'apportez une bonne nouvelle, que vous êtes devenue sage. » Mais elle fit semblant de ne pas l'avoir entendu, et s'éloignant de quelques pas, l'engagea à la suivre. « Venez vous mettre ici près de moi, sur cette mousse verte, contre ce tronc d'arbre. L'ombre y est profonde. L'on ne voit qu'un rideau de feuillage, et entre les pierres, un carré d'eau bleue. C'est comme si on était seul, perdu au bout du monde. » Il obéit et s'assit à ses côtés. « Voyons, recommença-t-il, qu'a dit votre père ?» « Que vous êtes donc curieux et pressé !» s'écria-t-elle avec une affectation de gaieté qui le trompa. « Vous ne le saurez que plus tard. Dites-moi d'abord des choses aimables. Je veux en entendre aujourd'hui. J'en ai le droit. » Cette coquetterie tendre, à laquelle elle ne l'avait pas habituée, grisa Georges. Il oublia ses préjugés. Maximin, le docteur Maoul. Il ne vit plus au monde que la créature vibrante et exquise qui lui demandait de l'amour et qu'il allait appeler sa femme. Tout ce que son cœur d'homme renfermait de sentiments doux et ardents s'exhala dans cette heure. Autour d'eux, le silence était presque absolu. L'on n'entendait que les gouttes d'eau qui tombaient du rocher et entre les herbes, les bruissements d'ailes des insectes. Geneviève, les lèvres entrouvertes, les yeux enfiévrés, écoutait les paroles de Georges. Une expression extatique la transfigurait. Quand il eut achevé de parler, elle se pencha vers lui et, avec un mouvement d'abandon passionné, lui jeta les bras autour du cou. « Oh, mon bien-aimé » s'écria-t-elle. « Vous m'aimez, n'est-ce pas? Vous m'aimez ?»«
Mais, » répondit-il en riant, « il me semble que je viens de vous le dire. C'est à mon tour de vous interroger. M'aimez-vous, Geneviève ?»«
Si je vous aime ? Vous demandez si je vous aime ?»
Sa voix avait pris soudain un accent déchirant, son visage une expression égarée.
« Mon Dieu, qu'avez-vous ? » cria Georges.
« Je ne veux pas que vous doutiez de moi. Oh, je vous en conjure, quoi qu'il arrive, promettez, jurez de ne jamais douter de moi. »
« Mais je n'en doute pas, enfant que vous êtes.
Il faut que vous croyiez toujours à mon amour, que vous connaissiez sa force, sa tendresse infinie. »
Et, en termes ardemment éloquents, elle lui raconta ce qu'il était pour elle, tous les vides qu'il avait comblés, tous les horizons qu'il lui avait ouverts. Elle parla de son enfance triste, de sa jeunesse morne. Il était venu comme un rayon de soleil, vivifier son cœur et sa vie. Elle ne l'oublierait jamais.
« Je ne suis qu'une pauvre fille ignorante, mais je vous ai aimé de toute mon âme, de toutes les puissances de mon être. »
Était-ce bien Geneviève qui parlait ainsi ? Elle, cet enfant sauvage, sans expérience de l'amour, qui ignorait les raffinements de l'analyse et dont le charme naïf l'avait séduit ? Ce développement moral soudain, extraordinaire, surprenait Georges, l'inquiétait vaguement. Mais pourtant, il trouvait à ses accents de passion un charme troublant. Son visage touchait celui de la jeune fille. Il l'embrassa violemment sur le front, sur les yeux, sur les lèvres. Elle lui rendit ses baisers sans aucune réserve, tandis que ses lèvres balbutiaient, le tutoyant pour la première fois, « Je t'aime, oui, je t'aime. » Puis tout à coup, un tremblement la saisit, et éclatant en pleurs, elle s'affaissa sur la poitrine du jeune homme avec un cri étouffé. Sérieusement inquiet cette fois-ci, M. de Briard releva la tête de Geneviève et, la contraignant à le regarder, exigea une explication que les lèvres de la jeune fille ne parvenaient pas à formuler. Enfin, avec un effort suprême, d'une voix presque inintelligible, elle raconta ses luttes désespérées et la victoire de sa conscience. Elle devait renoncer à lui. Elle ne pouvait abandonner l'enfant. D'abord, il ne comprit pas. Puis, lorsqu'il eut saisi le sens de cet aveu, blessé dans son orgueil d'homme et ses sentiments les plus chers, Georges repoussa la femme qui pleurait sur son cœur et qui osait préférer un autre amour au sien. Les paroles de Lizzie lui revenaient à la mémoire. « Si elle vous aime, elle n'hésitera pas une seconde. » Et non seulement Geneviève hésitait, mais volontairement elle renonçait à lui appartenir. Une grande colère envahissait Georges. Sa jalousie instinctive, son hostilité sourde contre Maximin, étouffaient en son cœur toute justice, toute compassion. Il avait bien su braver pour elle ses préjugés de caste, les objections de sa famille, de ses amis. Geneviève ne voulait rien sacrifier. C'est donc que son amour était une chose faible, sans force et sans valeur. Durement, il l'accusa de l'avoir trompée, de s'être joué de son affection, de ne jamais la lui avoir rendue. « Sans cela, vous ne viendriez pas me signifier froidement que vous ne voulez plus de moi. »«
Froidement ? » répéta-t-elle après lui. Elle ne dit que ce seul mot, mais le son de la voix était si navré que Georges tressaillit et la regarda. Elle était demeurée appuyée au tronc de l'arbre, contre lequel, dans son brusque mouvement, il l'avait rejetée. Les bras pendants, la tête courbée, il y avait dans son attitude et sur son visage un désespoir si profond, si intense, si absolu, que l'âme de M. de Briard en fut remuée. « Geneviève, je vous en supplie, reprenez vos paroles. Je vous promets de les oublier. Il n'en sera plus question entre nous. Je ne puis pas. Comment vous ne pouvez pas? Venez avec moi, Geneviève, et nous serons si heureux que vous oublierez le passé. Laissez-moi, cria-t-elle en détournant la tête. Ne me parlez pas ainsi. Ne voyez-vous pas que vous me torturez? Quoi? Quand je vous parle de bonheur? Non, ce ne serait pas le bonheur. Ma conscience me déchirerait. Je le verrai toujours, malheureux, mourant loin de moi. Vous ne pensez qu'à lui. Vous nous sacrifiez tous deux à cette existence précaire. Le ton de Georges redevenait âpre, sec et dur. Ces mots, existence précaire, raffermirent la résolution de Geneviève, lui redonnèrent la force de résistance que les prières tendres du jeune homme avaient ébranlées. C'est justement parce qu'il était infirme, malade, qu'elle ne pouvait abandonner Maximin. Elle essaya de le faire comprendre à Georges, de l'attendrir sur le sort de l'enfant pour qu'il lui pardonnât, à elle. Mais rien ne le toucha. Une colère jalouse lui endurcissait le cœur. « C'est donc la séparation que vous voulez ? » demanda-t-il. Tous deux s'étaient levés. Lui, très droit, les lèvres serrées, avec un visage hautain qui ressemblait étrangement et soudainement à celui de Madame de Santenac. Elle, défaillante, les mains tendues en avant. Il la regarda avec une ironie amère. « Et dire que j'ai cru en vous ! » s'écria-t-il. « Et qu'en comparaison de votre amour, toute autre affection me paraissait sans valeur, indigne, ternie. Je vous avais mise si haut dans mon cœur que pour vous je reniais même le passé. » Elle comprit qu'il faisait allusion à Madame de Crussol, et une douleur aiguë la transperça. Renoncer à lui, c'était le rendre à l'ancien amour. Ah, ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. Lizzie devait l'emporter sur elle. Et c'est elle-même qui l'y aidait, qui volontairement redonnait à Georges sa liberté. Devant cette conséquence de son sacrifice, Geneviève sentit de nouveau son courage faiblir. En elle, la nature et la jeunesse se révoltèrent. Elle regarda Georges. Il représentait à ses yeux plus que le bonheur, l'orgueil de sa vie. Que de fois son âme s'était gonflée de fierté à l'idée de lui appartenir. L'éloigner, c'était retomber pour toujours dans l'obscurité, la misère et le vide. Elle eut un frisson. Il lui semblait que, des feuillages épais, une ombre froide tombait sur ses épaules, glaçait son cœur. « Georges, cria-t-elle avec angoisse, n'aurez-vous pas pitié ? » Elle ne savait pas elle-même ce qu'elle espérait obtenir, mais Monsieur de Brière crut qu'elle lui demandait d'emmener l'enfant, que tout cela avait été une mise en scène pour l'attendrir, un piège dans lequel il devait tomber. Sa nature droite en fut blessée, il estima moins Geneviève. « Vous savez que c'est impossible, » répondit-il froidement. La jeune fille s'appuya à un arbre pour ne pas tomber, comprenant que tout était perdu. Elle fit quelques pas incertains, comme pour s'éloigner, puis s'arrêta. « Adieu !» murmura-t-elle. Un rayon de soleil furtif, passant à travers les branches touffues, éclairait son visage à demi tourné, comme pour en montrer une dernière fois à Georges la beauté parfaite. La passion et la douleur lui donnaient une expression pathétique qui en augmentait la séduction. Le jeune homme fit un mouvement vers elle, un dernier appel lui venait aux lèvres. Il se sentait prêt à céder en quelque chose pour ne pas la perdre. « Soit, dit-il, vous ne voulez pas abandonner votre frère tant qu'il aura besoin de vos soins. Je me soumets et je pars. Mais le jour où vous l'aurez... » Il allait dire « perdu », puis se reprit et changea sa phrase. « Mais le jour où il sera guéri... « Promettez-moi alors de le quitter et de me suivre, lorsque je viendrai vous réclamer. » Elle eut un éclair d'espérance, que la réflexion dissipa aussitôt. Ne savait-elle pas que l'enfant ne pouvait jamais guérir, que leur misère était trop grande, qu'il n'avait même pas la consolation de le disputer au mal qui le dévorait? Elle aurait désiré expliquer tout cela à Georges, mais sa fierté et sa délicatesse l'en empêchèrent. « Eh bien ?» demanda celui-ci, de l'air confiant d'un homme qui a fait une concession généreuse et qui attend qu'on en soit reconnaissant. « Eh bien, n'est-ce pas, s'il se rétablit, vous promettez ?»«
Je ne puis rien promettre, » dit-elle avec une résignation morne, « car il ne se rétablira jamais. »
Cette réponse découragée blessa mortellement M. de Briard. « Puisque Geneviève refusait d'accepter toute perspective d'avenir, fort bien, il la prendrait au mot. » Il se redressa de toute sa hauteur et s'éloignant avec un mouvement brusque, « Adieu » dit-il à son tour. Il avait déjà écarté les branches pour se frayer un passage à travers les buissons lorsque la jeune fille le rappela. Il se retourna d'un air étonné et la vit près de lui.
« Nous ne pouvons nous séparer ainsi, » balbutia-t-elle. « Dites-moi au moins que vous me pardonnez. »
Les traits de M. de Briard ne se détendirent pas. Aucune émotion ne les adoucit. En voyant ce visage rigide, qui il y a quelques instants à peine se pressait contre le sien avec des caresses si douces, un regret intolérable et désespéré saisit Geneviève. Une fois encore, elle voulut savourer cette joie qu'elle allait perdre à jamais. Ses bras se tendirent, ses lèvres bégayèrent. « Georges, nous ne nous reverrons plus. Embrassez-moi. » Monsieur de Briard se pencha, et sans une parole, sans un regard, la baisa froidement au front, comme s'il ne l'avait jamais aimée. Puis, soulevant les branches qui étaient retombées, il disparut aux yeux de Geneviève, emportant la lumière de sa vie. Une heure plus tard, en traversant la place des Palmiers pour rentrer chez sa sœur, Georges rencontra Madame de Crussol. « Je pars demain, » lui dit-elle. Puis, voyant le visage décomposé du capitaine, « Mon Dieu, qu'avez-vous, mon ami ?» Il répondit d'un ton qu'il essayait de rendre ferme, « J'ai que je ne me marie plus. » Et que, si vous le permettez, Lizzie, je partirai avec vous. Vous serez amie pour moi, je le sais.
Dites plutôt une sœur, répliqua doucement la comtesse Lise avec un chaste abaissement de paupières.
Lorsque, ce jour-là, Geneviève parvint à rentrer chez elle, elle trouva sur la table de sa chambre une lettre à son adresse. C'était l'adieu de Libine. Le Russe prenait respectueusement congé d'elle. Toutes ses expressions affectueuses étaient pour son petit ami, auquel il demandait de ne pas l'oublier dans la nouvelle et heureuse existence que le mariage de sa sœur lui préparait. Il semblait ne pas mettre en doute son adoption par Georges. À cette lecture, la jeune fille eut un éclat de douleur, sans larmes. « Ah ! s'écria-t-elle avec une inexprimable amertume. « Lui, du moins, aimait l'enfant et ne m'aurait pas brisé le cœur. » La lettre de Libine avait produit l'effet qu'il en attendait. Chapitre 7. La soirée était chaude et étouffante. Aucun rayon de lune n'éclairait la vieille rue déserte, où ne se voyait pas un promeneur, car tous les habitants de la ville se pressaient sur les boulevards, cherchant un air plus respirable. La seule figure visible était celle de Geneviève, qui, accoudée à l'appui de la croisée, semblait attendre quelqu'un. Ses yeux regardèrent longtemps le long de la descente, puis, n'apercevant pas ce qu'elle cherchait, elle les ramena vers l'église d'en face. Dans l'obscurité presque complète, les piliers prenaient des aspects de fantômes. Les niches avaient des profondeurs inquiétantes. C'était là, au tournant de ce mur, qu'elle avait aperçu pour la première fois Madame de Crussol. C'était là, à l'abri de ce porche, qu'elle et Georges se disaient adieu. Et toutes ces choses si douces ne reviendraient jamais. Et cela par sa faute, parce qu'elle l'avait voulu. Elle demeura quelques minutes abîmée dans la contemplation des objets inanimés qui lui rappelait ses souvenirs. Mais lorsque ses regrets devinrent trop intolérables, qu'elle comprit son impuissance à redonner la vie au passé, Elle rentra dans la chambre, se rapprocha de la table et, s'asseyant sous la clarté de l'abat-jour, reprit l'ouvrage de couture commencé. « Comme il tarde à revenir !» dit-elle. « La réponse sera mauvaise. » La douleur n'avait pas eu de prise sur la beauté de Geneviève. Elle était de ces natures robustes que le chagrin ne flétrit pas. Peut-être était-elle plus pâle qu'autrefois, mais les contours de ses joues n'avaient pas perdu leur rondeur. Peut-être sa bouche avait-elle un pli de tristesse plus marqué, mais les lèvres étaient aussi rouges que jadis. Et si les paupières tombaient plus lourdement, l'œil avait conservé toute sa limpidité. C'était plutôt dans l'attitude du corps et le son de la voix que son découragement profond se révélait. Personne, d'ailleurs, autour d'elle ne s'apercevait de cette crise morale, dissimulée sous un aspect de calme résigné. Le docteur Maoul, préoccupé uniquement de la santé défaillante de Maximin, ne songeait pas à observer sa fille. Quant au petit garçon, comme Geneviève ne s'approchait de lui que le sourire aux lèvres, il ne pouvait deviner le désespoir que cette gaieté cachait. Ayant toujours ignoré les fiançailles de sa sœur avec M. de Briard, il n'avait pas le moindre soupçon du sacrifice accompli pour lui. La gravité de sa maladie, la crainte de l'agiter, la rapidité des émotions qui se succédaient, tout cela avait empêché la jeune fille de communiquer à son frère son heureux secret. Maintenant, elle bénissait l'instinct qui l'avait rendue silencieuse. Maximin apprit donc le même jour le départ des Crussol, de Libine et de Georges. « Ah ! » dit-il, « Monsieur de Briard s'en va aussi ? J'avais cru qu'il resterait. » Et avec son regard profond d'enfant précoce, il avait regardé attentivement sa sœur. À quoi Geneviève avait répondu froidement « Son congé expirait, il a dû partir. » L'été, dans cette ville brûlante du midi, était toujours pour Maximin une saison difficile et pénible. Cette année-ci, surtout, où ses forces diminuaient d'une façon inquiétante, il aurait eu besoin d'un air plus vivifiant, plus frais. Jamais il ne s'était remis de sa dernière crise. C'est à peine si on pouvait le lever quelques heures par jour. Les médicaments habituels ne réussissaient plus à le remonter. Devant l'insuffisance des moyens dont il disposait, le traitement prescrit par le médecin d'Heidelberg hantait, comme un remords, le docteur Maoul. La dernière et suprême amertume de sa vie manquée était de ne pouvoir essayer de sauver son fils. Que de fois, le soir, lorsque l'enfant dormait, il venait s'asseoir près de sa fille, et ensemble ils recommençaient les calculs désespérants. Aucune issue ne se présentait à eux. Ayant toujours vécu pauvrement, ils ne possédaient pas ces épaves de la richesse, dont la vente est la dernière ressource des malheureux. Avec cela, nul crédit, des dettes de tous côtés, pas un ami auquel s'adresser. Les parents de la mère de Geneviève étaient ruinés. La tante de Toulouse devait déjà pourvoir à une nombreuse famille. Restait le cousin Randos, revenu depuis quelques jours de sa tournée d'affaires. Mais comment et de quel droit avoir recours à lui? Cet appel répugnait à la fierté du père et de la fille. Geneviève surtout repoussait ce moyen. Elle se souvenait des regards brûlants d'Ernest, de ses phrases significatives, et instinctivement craignait tout ce qui pouvait les rapprocher. Cependant, lorsqu'aujourd'hui son père lui avait dit après souper « Je sors un instant, j'ai une commission à faire dans la ville basse », elle avait compris quelle démarche il allait tenter et ne s'était pas senti le courage de l'en dissuader. Maintenant, elle l'attendait, anxieuse, prêtant l'oreille au moindre bruit. Une heure s'écoula encore, puis elle entendit son pas dans l'escalier. Quelque chose dans la façon dont il ouvrit la porte lui fit comprendre qu'il avait réussi. Son visage, qu'elle voyait animé pour la première fois d'une expression de triomphe, confirma l'heureux pressentiment. « Eh bien, qu'a-t-il dit ? » demanda-t-elle d'une voix que l'émotion étouffait. Il nous aidera à le sauver, répondit simplement le docteur. Puis il fit un grand éloge d'Ernest Randos, de sa générosité. Il avait promis d'avancer la somme nécessaire pour la cure de Maximin. On conduirait celui-ci au Mont d'Or et plus tard à Lyon ou à Paris. Geneviève ne pouvait en croire ses oreilles. Elle riait et pleurait à la fois. Enfin, elle dit « Quelles obligations nous lui aurons ? Comment même accepter tant de choses de la part d'un parent éloigné, presque d'un étranger ?» Il m'a assuré, au contraire, qu'il serait mon obligé, répliqua le docteur avec un singulier sourire. J'ai dû, tu le comprends, lui donner des garanties. Son père plaisantant ? Geneviève le regarda, effrayée. Voyons, ne devines-tu pas ? Poursuivit-il du même ton. Les jeunes filles en général sont plus promptes que cela. C'était la première fois de sa vie que le docteur rapportait chez lui une bonne nouvelle. Il prenait plaisir à la distiller goutte à goutte. « C'est pour nous un bonheur inespéré. Tu vas être bien heureuse, Geneviève. Tu sauves ton frère. » Il y avait presque de l'envie dans l'accent dont le père prononça ces mots. Il continua « Outre cela, tu seras riche, ma fille, et tu auras un bon mari. » « Ernest doit aller demain à Colombrières, mais dans 2 jours il sera de retour et viendra te demander de devenir sa femme. »« Sa femme ? Sa femme ?» cria Geneviève. Elle était devenue toute blanche, une expression d'épouvante agrandissait ses yeux. « Mais vous lui avez dit que c'était impossible, que je ne pouvais pas ?»« J'ai accepté au contraire. Il faudrait être folle, coupable. » « Mauvaise pour refuser !» Jamais le docteur n'avait parlé avec cette véhémence âpre et cette autorité paternelle. Le triomphe, puis le désappointement, l'avait transformé. « Tu diras oui, Geneviève !»« Et si je ne veux pas » demanda-t-elle d'un ton de défi. « Si tu ne veux pas, » répondit M. Maoul, « ton frère mourra, faute de soins. » Le père et la fille se regardèrent quelques instants en silence. Ce duel de 2 volontés, dont une vie était l'enjeu, avait quelque chose de tragique. Le docteur fut le premier à détourner les yeux. Il avait déjà repris son attitude découragée et incertaine. « Tu t'expliqueras avec Ernest, » dit-il en quittant la chambre. « Moi, je ne puis reprendre ma parole. » Demeuré seul, Geneviève eut un cri de révolte. « Quoi ? Encore cela ? Encore cette lutte à subir ? » Il lui semblait qu'elle avait payé son tribut à la douleur, qu'elle ne pouvait en supporter davantage. Après avoir dû être la femme de Georges de Briard, on osait lui demander de devenir celle d'Ernest Randos ? C'était la faire descendre violemment des hauteurs où son amour l'avait élevée. Ne voyait-on pas que ce fait créait des impossibilités ? Creusait des abîmes entre elle et son prétendant d'aujourd'hui ? À la seule pensée de ce mariage, elle se sentait diminuée vis-à-vis d'elle-même, souillée, ternie. Elle, qui réfléchissait si peu autrefois, avait maintenant des raffinements, des subtilités de pensée qui la torturaient. Elle s'était résignée au sacrifice. Elle avait consenti à reprendre la chaîne des journées monotones, de la vie terne et pauvre, au prix de quels regrets intolérables, Dieu seul le savait. Mais on ne pouvait exiger davantage. Non, elle ne vendrait pas son corps après avoir crucifié son âme. Il lui venait presque de la rancune contre ce frère, au nom duquel on exigeait de pareilles immolations. « Tu ne peux l'abandonner ?» avait déclaré sa conscience. Tu dois renoncer à épouser l'homme que tu aimes. Maintenant, son père disait, si tu ne veux pas que l'enfant meure, accepte l'union qui te répugne. Durant 3 jours, Geneviève se débattit contre les obligations que lui imposait sa destinée. Tout ce qu'il y avait en elle de fier, de délicat, criait, gémissait, demandait grâce. Les espérances inavouées qui lui restaient ne voulaient pas mourir. Mais la lutte était impossible entre ce père triste, sévère, dont l'attitude et les moindres mots renfermaient un reproche, et ce frère, dont les souffrances continuelles faisaient appel à sa pitié. Jamais, comme en ces jours, il n'avait été aussi fiévreux, aussi énervé. Étendu sur son lit étroit, dans la chambre étouffante, au plafond bas, où l'air ne circulait plus, le pauvre enfant essayait péniblement de respirer. Il demandait à sa sœur si la fraîcheur ne reviendrait jamais. « Ah ! Disait-il, si je pouvais descendre sur les boulevards, il me semble que je serais mieux. » Ces mots transperçaient le cœur de Geneviève. En énumérant les générosités futures du cousin Randos, le docteur avait dit « L'air de la vieille rue est mauvais pour Maximin. Ernest offre de le prendre chez lui. » Et la jeune fille voyait sans cesse s'élever devant ses yeux la maison ensoleillée de la route nationale, avec sa façade claire et son balcon couvert de fleurs. Et à cette vue, quelque chose lui disait que si Maximin pouvait guérir, c'était là, dans ce bien-être et cette gaieté. La pauvreté le tuait. Jamais elle ne l'avait mieux compris. Jamais, comme à cette heure, les étreintes de la misère ne s'étaient fait sentir plus cruellement. On aurait dit qu'en ces jours, tout conspirait contre elle, les hommes et les choses. Les créanciers du docteur choisirent ce moment pour parler d'une saisie. Lui, d'ordinaire si sobre de paroles, raconta sans pitié à sa fille toutes les humiliations et les déchirements auxquels les exposerait l'exécution de cette menace. Elle n'avait pas un appui, personne pour la défendre contre ses persécuteurs. Heure par heure, elle sentait sa force de résistance diminuer. Au fond, que lui importait sa vie? À quoi bon la défendre? Et pour qui? Et pourquoi? Lorsqu'on se sacrifiait, on devait le faire complètement, ne pas marchander ses renoncements. Puis l'enfant souffrait, il fallait le sauver. Et elle s'attendrissait sur ses privations et ses infirmités. Cependant, elle hésitait encore. La veille du jour fixé pour le retour d'Ernest, son père lui dit d'une voix où tremblait une prière. « Randos viendra demain à midi. Ta réponse est-elle prête ?»« Non, » répondit-elle sèchement. Si elle consentait à s'immoler, elle ne voulait pas y être contrainte. Maximin passa une mauvaise nuit. Geneviève le veilla. Au matin seulement, tous deux s'endormirent. Lui sur sa couchette, elle sur une chaise basse, la tête appuyée au coussin du lit de son frère. Ils furent réveillés par l'entrée du docteur qui tenait une lettre à la main. Geneviève crut qu'Ernest retardait son retour, et cette pensée lui causa un soulagement intense. « C'est pour toi, Maximin, » dit Monsieur Maoul. « Sans doute ton ami Lucien qui t'écrit. » L'enfant poussa un cri de joie. Jamais encore, de toute sa vie, il n'avait reçu de lettre. Il désira l'ouvrir immédiatement. Geneviève, dont le cœur battait à se rompre, le souleva sur ses coussins. Elle aurait voulu saisir l'enveloppe. Elle ne pouvait pas attendre. Tout son passé la ressaisissait. Afin de dissimuler son impatience, elle cacha sa tête contre le traversin du lit et se disposa à écouter. Maximin commença sa lecture de cette voix hésitante des enfants qui ne sont pas habitués à lire l'écriture. Lucien parlait de son voyage, de ses nouveaux jouets, en un style enfantin. Puis venaient quelques phrases nettes et fermes qui, évidemment, lui avaient été dictées. « Monsieur de Briard est venu nous rejoindre. Il a demandé une prolongation de congé et nous accompagnera en Suisse. » Lui et maman montent à cheval tous les jours ensemble. Geneviève n'avait pas bougé. Personne ne vit son visage que le désespoir bouleversait, ne devina l'agonie qu'elle traversa en cet instant. Georges était retourné à l'ancien amour. Elle ne songea pas à l'accuser, à s'indigner. Tout cela était sa faute. rien que sa faute. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. C'était la fin, la mort de toute espérance. Quand le docteur Maoul quitta la chambre de Maximin, Geneviève le suivit. « Père, dit-elle, ma réponse est prête. J'épouserai Ernest Randos. » Était-ce le triomphe de l'affection fraternelle absolue et profonde qui avait dominé sa vie? Sans la lettre de Lucien, se serait-elle résignée? Elle-même n'aurait pu le dire. Elle obéissait à ce mélange de forces intérieures et d'impulsions extérieures qui dirige notre destinée et que nous ne saurions ni définir ni déterminer. À midi, Ernest Randos arriva, un peu ému, cependant avec le visage confiant de l'homme qui a accompli une bonne action et qui va en recevoir le prix. Geneviève l'attendait dans le cabinet de son père. Jamais il ne lui avait paru si lourd, si vulgaire. Il s'approcha, les mains tendues, souriant amoureusement. « Eh bien, cousine » demanda-t-il d'un ton rempli de satisfaction personnelle. « Consentez-vous à devenir Madame Randos ?» Elle essaya de sourire et n'y parvint pas. « Oui, » bégaya-t-elle. Il se contenta de cet acquiescement bref. « Pauvre fille, sans doute le bonheur imprévu la suffoquait. »« Alors, » s'écria-t-il en se frottant les mains, « à quand la noce ?»« Quand vous voudrez, » répondit Geneviève. Que lui importaient ces détails, puisqu'il fallait subir cette nécessité horrible, autant tout de suite. « Très bien, disons le plus tôt possible, et scellons le pacte, voulez-vous ?» Il se pencha pour l'embrasser. Elle ne recula pas. Mais quand elle sentit contre son visage, où celui de Georges s'était appuyé, ce visage d'homme qu'elle n'aimait pas, elle éprouva un désespoir si atroce qu'elle se sentit mourir et glissa, inanimée, des bras qui l'enlaçaient. Le docteur Maoul entrait au même instant. Il vit sa fille évanouie, le visage surpris et mécontent de son futur gendre. Sa terreur lui donna la présence d'esprit dont il manquait d'ordinaire. « Pauvre enfant, » dit-il, « ce n'est pas étonnant, elle a veillé son frère toute la nuit. Puis, vous comprenez, l'émotion... Aidez-moi à la soulever, elle est si robuste que ce ne sera rien. » Ernest avait repris sa placidité. La dernière phrase du docteur flattait sa manie. D'ailleurs, en vérité, pourquoi s'agiter ? Geneviève ne pouvait être qu'heureuse et fière de lui appartenir. Et comme, grâce à son absence, il avait toujours ignoré les entrevues de la jeune fille avec Georges, aucun soupçon ne lui vint. Chapitre 8. Ce fut avec un singulier mélange de plaisir et de peine que Maximin apprit le mariage de sa sœur. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle épousait Ernest Randos, il eut une exclamation de pitié. « Ah, pauvre Geneviève » dit-il. Elle lui demanda, du ton irrité des personnes dont on vient de toucher la plaie vive. « Pourquoi me plains-tu ? Je ne sais pas, j'avais cru... » Il s'arrêta, essayant de préciser sa pensée et n'y parvint pas. Il avait l'intuition vague d'un malheur, d'une déchéance. Cependant, il n'aurait su expliquer ce qui lui donnait ce sentiment. Le cousin Ernest était riche, il possédait 1000 avantages qui leur manquaient à eux. « Tu habiteras une belle maison, Geneviève, cela te fera plaisir, n'est-ce pas ?» On aurait dit qu'il voulait se rassurer. Elle fit un signe muet d'acquiescement et détourna le visage. « Puis... « Ainsi, nous resterons ensemble. Je suis si contente de cela. Et toi, sœur ?»« Oui, oui, bien contente !» s'écria-t-elle avec une explosion de tendresse soudaine. « Tu ne sauras jamais à quel point !» En effet, il ne devait jamais le savoir. Elle ne pouvait lui dire le prix dont elle avait payé le droit de ne pas le quitter. Le mariage était fixé à très bref délai. Le fiancé ne voulait pas attendre. Il fallait se presser, d'ailleurs, pour conduire Maximin au Mont d'Or. C'est pourquoi Geneviève ne s'opposait pas à cette hâte et se soumettait à tout ce qu'on proposait. sa vie était devenue une torture. Chaque minute, chaque incident lui apportait une souffrance. Le bien-être matériel dont elle allait jouir lui faisait horreur. Elle préférait leur misère à cette prospérité vulgaire. Ses seules heures supportables furent celles qu'elle employa à arranger la chambre de son frère dans la maison de la route nationale. Ernest se montrait généreux, complaisant pour Maximin. Elle lui en aurait été reconnaissante s'il n'avait pas accompagné ses présents d'effusions affectueuses auxquelles elle se soumettait avec une résignation morne, mais qui la rendait presque folle. Elle aurait voulu le supplier de les lui épargner, et n'osait pas. Souvent, elle se demandait avec angoisse si son courage se soutiendrait jusqu'au mariage, si ses répugnances ne seraient pas plus fortes que sa volonté. Leur plan d'avenir était décidé. Après la cérémonie, Ernest partirait avec sa jeune femme pour une course de 3 jours. Puis, ensemble, ils reviendraient chercher Maximin. L'idée de ce voyage ravissait le petit garçon. Il ne parlait que de cela, et s'était vivement attaché au futur beau-frère, qui lui promettait le rétablissement et le mouvement. Cette affection grandissante irritait Geneviève. Elle souffrait de voir l'enfant soutenu dans les bras robustes d'Ernest Randos. Brusquement, elle intervenait entre eux, puis s'accusait d'ingratitude. Les perspectives heureuses semblaient avoir ranimé Maxima. Il paraissait plus fort. Un jour même, on put le descendre dans la ville basse, lui montrer la chambre qui l'y attendait. À la vue du papier clair, des meubles gais, il eut une explosion de joie qui adoucit le martyre de Geneviève. Tout sacrifice recueille dès ce monde sa récompense, avait dit le vieux prêtre. Elle commençait à le comprendre. Sa récompense, à elle, serait le rétablissement de Maxima. Le jour du mariage arriva enfin. Lorsqu'elle mit la robe blanche, présent de son fiancé, elle eut une dernière révolte. « Georges, Georges !» cria-t-elle, « je ne puis pas. Revenez, mon amour, revenez. Je quitterai tout pour vous suivre. » Ses bras se tendirent dans le vide. L'hallucination s'emparait d'elle. La voix de Maximin, qui l'appelait de la chambre voisine, lui rendit le sentiment de la réalité. « Sœur, sœur, qu'as-tu ? » demandait le petit garçon, effrayé par ces exclamations désespérées, dont, heureusement, il n'avait pas saisi le sens. Elle dut le rassurer. Il était tard déjà. Son frère la grondait de ne pas être prête. Le cousin Randos, rayonnant de satisfaction, sanglé dans son habit noir, criait de sa voix grasse « Hé, Geneviève, venez donc, monsieur le curé s'impatiente !» Pressée, bousculée de tous côtés, elle n'eut plus le temps de réfléchir et se trouva, sans savoir comment, traversant la mairie, puis l'église, au bras de son père. Elle marchait avec des sécheresses d'automates, le visage rigide. Les voisines chuchotaient entre elles. « Et dites donc, voilà une mariée qui n'est pas gaie. On dirait une figure d'enterrement. »« T'es, je crois bien, la pauvrette. Pour sûr, elle pense à l'autre, au grand brun, avec lequel elle se promenait toujours. » Quand la cérémonie fut terminée, il fallut partir. Geneviève avait vainement essayé de s'opposer à ce court voyage de noces. Mais Ernest y était résolu. « Adieu, petit, » dit-elle à Maximin. « C'est la première et la dernière fois que je te quitte. » Il la tenait par le cou, serré contre lui. « Oui, la dernière fois. Désormais, partout où tu iras, j'irai. » Et, ajouta-t-il, essayant de rire à travers ses larmes, « Maintenant que je vais voyager, tu dois promettre de m'accompagner toujours. » « J'aurais peur de m'en aller seule sans toi, Geneviève. » Elle l'étreignit avec une tendresse passionnée. « Non, non, je ne te laisserai jamais partir sans moi. » Sur ces mots, elle le quitta. Ernest l'attendait en voiture, devant la porte, ayant aux lèvres un sourire de possesseur ravi. « Montez, madame Randos, » dit-il amoureusement. « Vous êtes à moi maintenant. » et je vous enlève. » Elle frissonna. Le prix dont elle payait la vie de son frère lui parut soudain dépasser la mesure des sacrifices possibles. Ils revinrent 3 jours après, vers le soir. Sans ôter sa robe de voyage, sans s'arrêter dans sa nouvelle demeure, Geneviève se dirigea vers la maison paternelle. Une oppression la saisit en montant la vieille rue. Elle avait hâte d'en emmener Maximin, de le soustraire à l'influence de ses murs noirs et tristes. Rapidement, elle monta l'escalier, dévorée de l'impatience de le prendre dans ses bras. Comme il allait être joyeux de la revoir! Elle se l'imaginait, les joues roses, les yeux brillants d'impatience. C'était sa consolation, sa récompense. Il lui appartenait davantage maintenant qu'elle avait tout donné pour lui. En arrivant sur le palier de leur appartement, elle fut surprise de voir toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes, de n'entendre aucun bruit. Où étaient son père et Vincente? Elle pénétra dans le cabinet du docteur. Une odeur d'éther la prit à la gorge. Maximin serait-il malade de nouveau? Non, c'était impossible, on l'aurait averti. Cependant, une épouvante vague la saisissait. Dès qu'elle s'éloignait, il arrivait malheur à l'enfant. Elle traversa en courant la salle à manger et se trouva sur le seuil de la chambre du petit garçon. Elle vit son père à genoux, près du lit. Elle entendit un gémissement étouffé. « Maximin, c'est moi » cria-t-elle. « Qu'as-tu ? Tu souffres ?» Déjà, elle était au chevet de son frère. Dans l'obscurité presque complète, elle ne discernait pas ses traits. Il était étendu complètement à plat sur le dos, comme après une de ses crises. « Je ne te quitterai plus jamais » murmura-t-elle doucement en se penchant vers lui. « Je te le jure, mon chéri, je resterai toujours près de toi. » Puis, jetant ses bras sur la poitrine de Maximin, elle approcha ses lèvres de son front pour l'embrasser, mais recula avec un grand cri. Son serment était inutile. L'enfant venait de partir pour un voyage où l'on va toujours seul. Il avait dépassé les limites que l'amour humain peut franchir. Chapitre 9. Quelques mois avaient passé. L'hiver recommençait. Dans l'appartement de la vieille rue, Geneviève était occupée à étiqueter les meubles, à trier le linge des armoires. Le docteur Maoul, après avoir combattu et perdu sa dernière bataille contre la vie, était mort à quelques semaines de distance de son fils, et l'on allait vendre la pauvre maison avec ce qu'elle renfermait. Ernest Randos avait dit à sa femme qu'elle devait choisir, avant la mise en vente, les objets qu'elle désirait conserver. Et déjà Geneviève avait mis de côté le mobilier de la chambre de Maximin. Maintenant, elle était à genoux devant les tiroirs ouverts, pliait les vêtements et le linge de l'enfant. Elle ne pleurait pas en accomplissant ce triste travail. Ses mains touchaient sans trembler la petite veste qu'il portait d'ordinaire, le pauvre fichu de foulard troué qui entourait son cou frêle. Elle faisait tout cela froidement, avec une lenteur singulière, comme si, au lieu de muscles et de volonté, c'était un mécanisme qui guidait ses mains. Cette absence de vitalité se remarquait dans toute l'attitude du corps et plus encore dans les traits de la figure. Les lèvres pleines avaient pris une rigidité qui les amincissait. Aucune lumière n'éclairait ce visage, figé dans une expression d'épouvante et de désespoir. Geneviève ne portait plus de robe usée. Ses vêtements de deuil étaient d'étoffe solide et faits à la mode du jour. Mais ses apparences de prospérité juraient étrangement avec le dégoût intense de la vie que son affaissement révélait. Elle tournait le dos à la porte qui donnait sur le palier, et, dans son indifférence complète de toute chose, ne se dérangea même pas en entendant celle-ci s'ouvrir. « Geneviève !» murmura une voix près d'elle. Elle tourna la tête et vit Libine debout à ses côtés. « Vous ! Vous ! » cria-t-elle en se levant d'un bond. Un tressaillement subit de tout son être avait donné la vie à ses membres. Une contraction du visage avait détendu ses traits. Serge la regardait, très ému. Il lisait dans les yeux égarés de la jeune femme un drame poignant. Il avait appris la rupture avec Georges, mais il ignorait tout le reste. Geneviève n'avait communiqué à personne, ni son mariage avec Ernest Randos, ni la mort de Maximin. Libine était donc revenue dans le midi, ne sachant rien, poussée par un vif désir de la revoir, animée de l'espérance de la trouver plus abordable. Mais le deuil de Geneviève, le désordre qui l'entourait, les meubles éparpillés, lui apprirent que quelque chose d'anormal s'était accompli. « Mon Dieu ! » dit-il avec une émotion sincère. « Qu'est-il arrivé ? Parlez ! Où est Maximin ?»« Il est mort, » répondit Geneviève. Il y avait un désespoir si profond dans ces mots prononcés d'une voix farouche que Serge en fut remué. Ses yeux devinrent humides. Il saisit les mains de la jeune femme. « Ma pauvre enfant ! » s'écria-t-il. « Ma pauvre enfant ! Dites-moi ce qui s'est passé ! Vous savez que je l'aimais !» Fût-ce l'évocation de ce souvenir ou la sympathie de l'accent de Libine, mais les nerfs de Geneviève se détendirent. Un brusque sanglot la secoua. « Oui, oui, je sais !» balbutia-t-elle en répandant les premières larmes qui fussent venues la soulager depuis le jour terrible du retour. « Lui aussi vous aimait !» Elle avait oublié ses défiances contre Serge, les provocations audacieuses de celui-ci, ses ruses pour l'attirer dans le jardin isolé. Elle ne se rappelait que l'affection qu'il avait témoignée à Maximin. En quelques phrases simples, rapides, heurtées, elle lui raconta son mariage avec Ernest Randos et la mort de l'enfant. Libine écoutait, attendrie, mais si ému qu'il fût, il n'oubliait pas son but. « Et monsieur de Briard ? » s'écria-t-il, feignant l'ignorance. « Où était-il ? Comment a-t-il permis ?» Elle eut une exclamation déchirante. « Ah ! Georges, lui !» Et dans cet ébranlement subit de tout son être, poussée par un besoin irrésistible d'expansion, sans penser à qui elle s'adressait, Geneviève fit le récit poignant de son sacrifice inutile. Quand elle eut cessé de parler, Libine se pencha vers elle avec un profond respect. « Moi, » dit-il de sa voix douce, « je ne vous aurais pas laissé seule porter le fardeau. Je serais restée près de vous. » Un silence se fit entre eux. Serge regardait la jeune femme. La douleur répandue sur ce beau visage purifiait l'attrait qu'elle lui inspirait. Une déférence nouvelle lui était venue pour Geneviève. Celle-ci fixait les yeux dans le vide. Tout à coup, elle lui demanda brusquement « Pourquoi êtes-vous revenu ?»«
Pour vous emmener, » répondit-il.
« Pour m'emmener ?» Elle ne comprenait pas encore. « Oui, » poursuivit Serge. « J'avais appris, sans en connaître les détails, votre rupture avec monsieur de Briard. Je vous croyais libre. Je venais vous demander de devenir ma femme. » Il ne risquait plus rien à mentir ainsi. « Mais je suis mariée, » dit-elle naïvement. « Je le sais. Cela n'empêche. Vous vous êtes assez sacrifié comme cela. Vous ne vous devez plus à personne. Il est impossible d'ailleurs que vous restiez avec cet homme. Vous seriez trop malheureuse. Venez avec moi, Geneviève. Je vous conduirai loin d'ici. Vous oublierez le passé. » Il parlait comme Georges avait parlé. Mais alors sa conscience lui défendait de céder. Un autre amour la retenait. Maintenant elle était seule. Elle n'avait plus de conscience. Elle ne voulait plus écouter cette voix inflexible qu'il avait condamnée au désespoir. « Non seulement vous souffrez atrocement, » poursuivit Serge, « mais votre mari ne peut être heureux avec vous. Il doit deviner vos répugnances, connaître le but unique dans lequel vous l'avez épousé. » Geneviève courba la tête. C'était vrai. Dans l'excès de sa douleur, elle avait avoué la vérité à Ernest. Et maintenant qu'on lui faisait penser, Elle se rendait compte que sa présence ne devait éveiller en lui que de l'amertume.
« Malheureusement, reprit Libine, j'arrive trop tard pour vous offrir la position à laquelle vous auriez droit. Mais mon dévouement suppléera à ce que notre situation pourra avoir d'anormal. »
Avec une adresse infinie, il évitait de trop parler de son amour.
« Croyez-moi, ajouta-t-il, vous n'êtes point faite pour cette existence aux bornes étroites qui froissent tous vos instincts. Ne serait-ce pas déjà un soulagement d'y échapper ?»«
Ah, plus qu'un soulagement, s'écria-t-elle, dites une délivrance. »
Pouvoir se soustraire aux obligations d'un mariage odieux, fuir un intérieur où tout l'écœurait, ne plus entendre les plaisanteries d'Ernest Randos, ne plus s'asseoir jour après jour derrière ce comptoir reluisant où elle devait écouter, souriante, les commandes des clients de son mari. Ah, certes, la tentation était grande. Cet homme qui parlait, elle ne l'aimait pas, mais il représentait pour elle le passé ardent, les élégances et les raffinements d'esprit auxquels elle avait été initiée et dont l'absence était devenue une privation amère.
« Puis, ajouta Libine, vous ne pouvez rester dans cette ville où chaque chose vous rappelle une douleur, un sacrifice, un abandon. Moi, je vous ferai vivre dans un mouvement perpétuel, je vous entourerai de distractions, nous voyagerons sans cesse, vous échapperez, momentanément, du moins, aux regrets intolérables. Cela aussi sera un soulagement. »
Geneviève demeurait immobile, les yeux perdus. Elle ne voyait pas Serge, elle n'entendait que sa voix, lui promettant l'oubli, la délivrance. Et déjà, il lui semblait que son horizon était moins sombre, moins terne. Et pourtant, tous les instincts de la jeune femme étaient purs et honnêtes. Mais l'excès de la douleur les avait amortis. N'ayant jamais eu à lutter au-dedans d'elle-même contre le mal, elle en ignorait les détours. Il lui manquait aussi ses raisonnements, ses préceptes tout faits que l'éducation donne, et qui arrivent avec une promptitude opportune aux lèvres des femmes habituées à se défendre. Libine crut avoir gagné sa cause. Il oublia sa prudence. Ses yeux s'allumèrent. Il se pencha vers Geneviève et d'une voix ardente, « Je vous aime, » dit-il. Elle recula, épouvantée. Ces mots d'amour lui faisaient horreur. Serge comprit sa faute et voulut la réparer. Il essaya de se rapprocher de Geneviève. « Je vous en supplie, daignez m'écouter. »«
Non, non, » cria-t-elle, « laissez-moi. »
Par un brusque revirement, elle ne voyait plus en lui que le persécuteur dont Georges l'avait délivré.
« Je ne serai qu'un ami respectueux, auquel vous pouvez vous confier sans crainte. »«
Partez, » répondit-elle, « je ne veux pas vous entendre. »
Geneviève s'était penchée et avait repris dans ses mains les vêtements qu'elle pliait lorsque Libine était entrée. On aurait dit qu'elle cherchait dans ses morceaux d'étoffe une vertu, une protection.
« Ne me repoussez pas, » poursuivit Serge.
« Vous êtes jeune. Savez-vous ce qu'implique pour vous le refus de me suivre ? Une vie longue, décolorée, sans lumière, sans espérance. »
« Je le sais, » murmura Geneviève d'une voix défaillante.
« Tous vos sacrifices jusqu'ici ont été inutiles. À qui voulez-vous vous immoler encore ? Au souvenir d'un homme qui vous a abandonné dans la douleur ?»
Geneviève frissonna sous la phrase cruelle.
« Non, » répondit-elle fièrement.
« Alors quoi, est-ce pour votre mari ?»«
Non, » dit-elle de nouveau.
« Par simple vertu, peut-être ?» ricana Serge, qui comprenait que sa proie lui échappait.
« Si vous croyez que quelqu'un vous en récompensera, en ce monde, du moins, n'y comptez pas. »
« Je n'y compte plus, » répondit Geneviève.
Libine vit que, tout en parlant, elle pressait contre sa poitrine un objet qui ressemblait à une veste d'enfant.
« Serait-ce à cause de lui ? » demanda-t-il en hésitant.
« Mais il n'est plus là ! Il ne vous voit pas !» Ces mots tombèrent comme du plomb sur le cœur de Geneviève. Il lui sembla que les bornes qui l'emprisonnaient se rétrécissaient encore, qu'on la dépouillait de son dernier vestige de lumière et d'espérance. Elle regarda avec égarement autour d'elle, dans cette chambre où Maximin avait vécu et était mort. Ne restait-il vraiment entre eux aucun lien? La séparation serait-elle définitive? Un instant, elle le crut. La douleur avait tout ébranlé et anéanti dans son âme. Elle fut sur le point de crier « Si je ne dois jamais le revoir, emmenez-moi !» Mais quelque chose qui n'était pas sa volonté l'arrêta. Était-ce une force intérieure qui agissait en elle? Ou en réalité, nos morts ne sont-ils qu'invisibles et pas absents? Et peuvent-ils, aux heures suprêmes, se révéler à nous? Il sembla soudain à Geneviève que le petit garçon était là, dans la chambre, présent à l'entretien, avec son visage triste d'enfant malade. Il lui reprochait sa défaillance. Il lui rappelait sa promesse de ne jamais le quitter, de l'accompagner partout où il irait. Et par lâcheté, pour se soustraire à la souffrance, elle avait risqué de perdre le droit de le retrouver. Une grande honte envahissait Geneviève. La conscience du bien et du mal lui revenait. Elle cacha un instant son visage dans ses mains. Quand elle le releva, une clarté brillait dans ses yeux. Si lointaine, si incertaine que fût l'espérance de revoir Maximin, elle n'y renoncerait pas. Elle se tourna vers Serge. « Partez, dit-elle, laissez-moi, vous n'ébranlerez pas ma résolution. Un serment me lie. Je ne puis rien faire, rien hasarder qui m'empêche de rejoindre celui que j'ai perdu. » Il y avait sur le visage de la jeune femme une solennité et une décision qui firent comprendre à Libine que toute insistance ultérieure serait inutile. Cette abnégation persistante, ce dévouement survivant à la mort, le frappèrent d'un respect si grand qu'aucune irritation ne se mêla à son désappointement. Il s'inclina très bas devant Geneviève. « Adieu, dit-il, et pardon. »« Adieu, répondit-elle. » Serge quitta la chambre et sortit, le cœur plein d'une tristesse sérieuse et d'une pitié profonde. Arrivé à moitié de la vieille rue, il se retourna pour regarder une fois encore à la maison dans laquelle il ne devait jamais rentrer. À l'une des fenêtres, Geneviève, debout, droite, rigide, se profilait contre la muraille sombre. Cette figure solitaire, dans ses vêtements de deuil, ressemblait à l'image morne de la résignation. Aussi longtemps que Serge fut visible, elle le suivit du regard. Puis, lorsqu'il eut disparu au tournant de la place de l'église, elle rentra dans la chambre et ferma la fenêtre. C'était sa dernière chance de délivrance qui s'éloignait. Les horizons entrevus se fermaient pour toujours. S'il lui restait une perspective, elle n'était pas de ce monde.